bienvenue à Escale 16-17 avec Fulgence Blau au micro. C'est bien lundi, ça veut dire qu'il y a Louise Thibault qui va nous parler de nutrition. Aujourd'hui, c'est quoi? Pourquoi vieillit-on? L'immortalité, ça existe? C'est des questions qui se posent. Voilà les raisons pour lesquelles nous vieillissons et de certains organismes qui, eux, ne vieillissent pas et qui sont en quelque sorte immortels. J'ai bien hâte de l'entendre. Et en deuxième partie d'émission, je vais recevoir Rebecca Jean, qui va nous auteur, compositrice, interprète, réalisatrice, qui a lancé son dernier album en juin 2022. Là, il lui reste elle a fait des spectacles par-ci, par-là depuis ce temps. Il lui reste deux spectacles pour l'année 2022, donc c'est la raison pour laquelle je l'ai invitée. Elle va nous parler de ces deux derniers spectacles de l'année 2022 qui vont avoir lieu ce jeudi et ce samedi. Voilà. Alors, restez à l'écoute si vous voulez en savoir plus. Tout de suite, je laisse la parole à Louise Thibault. Bonjour Louise.
Bonjour Fulgence.
Comment vas-tu toi?
Ça va bien. C'est l'automne, c'est gris. Mmh. Alors quoi de mieux qu'écouter la radio?
Voilà, c'est ça. Pourquoi vieillit-on? L'immortalité, est-ce que ça existe? C'est la question qu'on se pose tout le temps. Voilà, il y a des gens qui se croient immortels. Bon, allez, tu es mieux placé que moi pour nous en parler. Hein. Bon, je pense bien que...
Voilà. Oui, puis,
et puis tu vas nous parler aussi
de l'Académie française.
Louise?
Dans lequel, oui.
Et puis tu vas nous parler aussi de tes livres coup de cœur pour chasser la grisaille de l'automne.
C'est ça, pour se balader, pour se forcer à aller dehors et puis admirer de belles choses.
Voilà, allez, on y va avec la vieillesse, cette histoire de pourquoi vieillit-on.
Alors, ben oui, j'aimerais pour qu'on puisse poursuivre notre réflexion parce que je veux bien vous donner des conseils pour garder votre corps jeune, votre cerveau jeune, mais il faut y réfléchir quand même, c'est quoi vieillir? Et puis il faut pas se dire vieillir c'est inéluctable, ça arrive tout d'un coup, il faut que je prenne soin de moi bientôt. Vieillir, c'est un processus qui est très lent.
Oui.
Et puis il y a des espèces animales qui elles ne vieillissent pratiquement pas, ils sont immortels.
Mais c'est pas notre cas. Depuis qu'on est formé bébé dans le ventre de nos mamans, qu'on sort de là, on vieillit.
Ben, c'est ce que j'ai dit.
Hein. Une journée à la fois, voilà.
C'est comme ça. Hein. Ouais. Alors, plusieurs philosophes, plusieurs scientifiques se sont posé la question, bon, puisqu'on vieillit, ben, pourquoi est-ce qu'on est condamné à vieillir? Qu'est-ce que ça se passe où exactement dans l'univers? Est-ce que ça se passe à l'intérieur de notre corps? En fait, certains scientifiques croient que ce sont nos gènes qui porteraient des programmes qui nous font vieillir.
Bon. Oui, lesquels?
Alors, il y a deux grandes écoles de pensée sur le vieillissement.
Oui.
Une d'entre elles, c'est que on croit qu'il existerait un programme génétique du vieillissement qui nous ferait mourir, disparaître à un moment précis. Alors, on serait en quelque sorte programmé pour mourir à un moment précis.
Oui, ça ne me surprend pas.
Bon. Alors, oui. Pourquoi? On peut se poser la question, pourquoi? C'est quoi ce destin-là?
Oui,
alors,
quelle est cette programmation naturelle?
Pardon, c'est bien ça, c'est naturel, mais tu es quand même dans la bonne voie dans ta réflexion, parce que les adhérents à cette école de pensée ont dit que ça pourrait éviter la surpopulation de la planète.
Ah, moi, d'accord. Ouais, s'il n'y avait pas de mort, nous autres, on ne serait pas là de toutes les façons.
Ben, il n'y aurait pas assez de place. Et déjà, notre planète est... Il y a trop de monde, hein. Il y a une surpopulation. Donc, imaginez si tous les gens... je crois que ça pourrait faire un bon film, ça, tous les gens qui sont vécus sur la planète sont entassés les uns sur les autres parce que personne ne meurt.
Ouais.
Donc, ça pourrait être peut-être une belle dystopie. Mais bon, alors l'autre école de pensée, qu'elle d'autres scientifiques adhèrent, c'est que nous ne sommes en rien programmés pour vieillir.
OK. Bon, il y a deux, oui.
Alors, en science, on ne s'accorde pas toujours, et c'est une bonne chose, parce que ça nous permet d'évoluer. Mmh. Donc, on ne serait pas programmé pour vieillir. Pourquoi? C'est parce que vieillir et mourir ne serait pas un avantage pour nous. En fait, ce serait plus avantageux de vivre très très longtemps pour pouvoir se multiplier, faire évoluer notre espèce. Mmh. Et on parle ici de En fait, y a des gens qui vont vieillir mais et mourir peut-être, mais il y a une sélection naturelle qui aurait fait en sorte que les individus qui sont dotés de gènes du vieillissement n'auraient pas survécu jusqu'à nos jours. Autrement dit, nous aurions en nous des gènes anti-vieillissement.
OK.
Et qui ne demandent qu'à s'exprimer.
Comment on le détecte?
Lorsque les conditions seront favorables.
Oui, à moi d'accord.
Bon, alors, autrement dit, nos gènes, ils n'auraient pas évolué de façon à ce que notre vie se termine à un moment précis. Mm-hmm. Nous pourrions éventuellement devenir immortels. Mais pour l'instant, nous ne le sommes pas.
Oui.
Pas encore. Enfin, les humains. Les humains et puis la grande, grande majorité des espèces animales que nous connaissons. Parce qu'il y a quand même des espèces animales qui sont en train d'être découvertes. Hein. Il y a des insectes qui sont nouvellement découverts, donc on ne sait pas tout. Mais moi, je peux vous dire que à mesure que j'ai fait des recherches, j'ai découvert qu'il y avait une espèce animale toute petite, qui mesure environ 15 mm et qui est un polype d'eau douce et qui serait immortelle. Alors, ce polype d'eau douce, on l'appelle aussi l'hydre d'eau douce. Eh bien, il n'a pas de squelette, mais il a des tentacules qui entoure une bouche qui sert en même temps d'anus.
Mais ça veut dire que voilà, ça veut dire que eux, ils ont assez de place dans l'océan, dans l'eau douce quoi, pour vivre. C'est ce qui fait que ils ne meurent pas. C'est parce que nous on n'a pas. Bon, ça c'est une autre version.
Oui, oh. C'est une explication. Oui. Moi j'en ai une autre explication pour l'immortalité.
Oui.
Dans les articles scientifiques, c'est que l'hydre, elle a un pouvoir de régénération parce qu'elle possède des cellules souches. Suffisamment de cellules souches pour lui assurer un rajeunissement constant. Autrement dit...
On aimerait bien avoir sur Terre ici. Hein.
Ça, oui. Tout le monde rêve de rajeunir. Alors, mais l'hydre, c'est une réalité. Et puis, si vous avez un aquarium, Fulgence ou Maurice ou les personnes qui nous écoutaient, eh bien, vous en avez sûrement dans votre aquarium. C'est très, très petit.
Oui.
Et puis, mais ça peut être visible. Et est-ce que c'est une bonne nouvelle d'avoir des hydres dans son aquarium? Pas vraiment.
Ah bon?
Parce que, premièrement, comme je vous ai dit, elles peuvent se régénérer. Si vous tentez de vous en débarrasser, quand vous nettoyez votre aquarium, vous coupez une tentacule et puis là, il y en a une autre qui pousse. Donc,
ah bon?
Oui, c'est ça. C'est étonnant. Et puis en plus de ça, il paraît que les polypes d'eau douce donnent des démangeaisons aux poissons. Alors vos pauvres petits poissons vont avoir des démangeaisons et c'est difficile de se gratter quand on n'a que des nageoires.
Oui.
Donc voilà, c'est une espèce animale, en fait un micro-organisme qui est immortel. Il y en a peut-être d'autres.
Oui, mais qui ne sont pas encore découvertes. Voilà, c'est waouh, intéressant. C'est bien de le savoir.
Il y a un autre organisme qui peut vivre très, 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 très longtemps. Et celui-là, il est comestible.
Ah bon?
Et je ne sais pas s'il est immortel. En fait, je n'ai pas encore trouvé. Peut-être que la science n'a pas encore trouvé que cet organisme était immortel. Mais je peux vous dire que ce n'est pas un fruit ni un légume à proprement parler.
Mmh.
Il appartient à un règne végétal qui est unique en son genre. Il n'a pas de tige, ni de feuilles, ni de racines.
Mais comment il arrive à...
Oui. Il peut être coloré ou non. Mmh. Alors je te donne des indices là pour que tu devines. Il peut être... Certains spécimens peuvent être immortels ou presque. C'est à déterminer, alors que d'autres sont mortels.
Non, je ne trouve pas. Non, je te laisse.
Un peu dans ma dernière chronique.
Ah non, je ne me souviens pas. Allez, vas-y, mets-toi sur le chemin. Voilà.
Sur le chemin des champignons.
Ah bon?
Oui, c'est ça. Je t'amène sur le chemin des champignons.
Ah, OK.
Les champignons, ils peuvent vivre, en fait, quelques heures à quelques milliers d'années. Les champignons qui vivent sur les arbres, parce que Quand vous vous baladez en forêt, vous pouvez voir comme des excroissances sur certains arbres, comme les bouleaux. Ben ça, ce sont des champignons qui vivent avec les arbres et puis qui peuvent vivre très très longtemps, même lorsque les arbres sont morts, les troncs tombent et puis les champignons continuent de croître. Et okay. De ces champignons-là qui vivent sur les arbres, eh bien, on peut en extraire une partie et les cuisiner ou les boire en tisane. Moi, j'ai goûté de la tisane de champignons qui venait d'un peuplier, je crois, et puis c'était délicieux.
Ah bon? Ça prolonge la vie des humains, de nous autres, là? Ou bien le fait que...
Enfin, pourquoi pas, c'est pas toxique.
Puisqu'on est en train, on est en plein là-dedans. Oh non, c'était pour rigoler. Oui. Non, c'est pour rigoler un peu.
Alors, les champignons, en fait, quand je parle à mes amis, à ma famille des champignons, je leur dis, moi, je vais parler des champignons, on me dit, oh, attention, c'est mortel et tout. Je dis, ils ne sont pas tous mortels.
Hein. Oui, il faut les connaître.
Il faut les connaître. Mmh. Et c'est passionnant.
Oui.
J'aimerais mentionner, rendre hommage au Québécois René Pomerleau. En fait, René Pomerleau, c'est un scientifique qui est considéré comme le père de la mycologie au Québec.
Oui.
Alors, il a été chercheur et enseignant sur la pathologie forestière et la mycologie.
Oui.
Mais après René Pomerleau, il y a énormément de personnes qui se sont passionnées pour les champignons, qui sont devenues mycologues. Et la mycologie, c'est l'étude des champignons.
Oui.
Et les champignons sont de plus en plus populaires. Hein. On en voit au début du printemps jusqu'à la fin de l'automne. Et même en hiver, sur les arbres, vous avez quand même des beaux spécimens de champignons.
Mm-hmm.
Donc, mais attention, il y a des principes de précaution qu'on devrait appliquer quand on songe à consommer les champignons. Premièrement, vous devriez d'abord en faire un plaisir pour vos yeux. Parce que c'est très joli, les champignons.
Oui, ça dépend des... Il y a tellement de différents types de champignons. C'est très beau à voir.
Et puis, quand on prend le chemin des champignons, il faut savoir où aller. Et il faut savoir où aller s'informer. Alors, j'aimerais vous suggérer un livre que j'ai beaucoup aimé, un ouvrage de Pascal G. Malenfant.
Oui.
Qui, elle, est conseillère en développement mycologique depuis plus d'une dizaine d'années, qui a publié le livre qui s'intitule « Sur le chemin des champignons ».
Ah. Et qui, pour les cueilleurs de champignons, ou bien les chasseurs de champignons, si on peut dire, bon, pas chasseurs, bon, les cueilleurs de champignons.
Les voyeurs de champignons.
Ouais, les ramasseurs de champignons, quelque chose comme ça.
Moi, je suis encore au stade de voyeurisme parce que, j'ose pas trop, là, m'aventurer dans la cuisine, mais un jour, peut-être. Alors, la prochaine fois que vous prendrez la clé des bois pour admirer les arbres, les couleurs, regardez les champignons. Et vous trouverez sur le chemin des champignons plusieurs endroits partout au Québec où, justement, on offre des activités d'éducation sur les champignons.
Ah bon, d'accord.
Ils sont qualifiés. Ça, c'est très, très important. Donc, vous allez apprendre qu'il y a des champignons qui devraient n'être mangés qu'avec les yeux parce qu'ils sont potentiellement toxiques.
Oui.
Et pour ça, une fois que vous aurez pris le chemin des champignons, je vous suggère deux livres. Il y a beaucoup, beaucoup de livres sur les champignons, mais ce qui est important quand vous voulez bien vous renseigner, c'est d'avoir un livre sur les champignons du Québec. Parce qu'il y a des champignons un peu partout sur la planète, mais les champignons en France ne sont pas les mêmes, ou en Europe ne sont pas les mêmes que ceux qu'on trouve ici.
Vraiment?
Ah oui, absolument.
Et c'est pas les mêmes qu'on trouve en Afrique ou bien en Amérique du Sud, bien quelque chose comme ça. Chaque continent, chaque territoire sont à ses propres champignons.
Ils sont peut-être sosies, mais alors c'est important de lire les bons livres. Alors, quand on a les champignons du Québec ou de l'Est du Canada, on est bien outillés. Moi, j'ai trouvé un beau petit livre que je traîne avec moi depuis que je l'ai reçu. C'est un petit livre avec une couverture cartonnée. La quatrième édition de ce livre qui s'intitule « Les champignons sauvages du Québec ».
Ah bon?
Ouais, et puis c'est pas n'importe qui a écrit ce livre-là. Puis quand vous regardez les livres, regardez qui est l'auteur, quelles sont ses références.
Quel auteur et puis la maison d'édition, s'il te plaît.
Fides, Yves Lamoureux et Mathieu Sicard, deux mycologues. Alors, Dans ce livre-là, j'ai trouvé le palmarès des 10 meilleurs champignons comestibles du Québec, mais aussi celui des 10 champignons les plus dangereux.
Oh.
Alors voilà.
Instructif.
Instructif. Mais si vous voulez vraiment vous gâter, et puis c'est pas un livre que vous pouvez nécessairement mettre dans votre sac à dos, à moins d'avoir un sac à dos géant.
Mm-hmm.
C'est le grand livre des champignons du Québec et de l'Est du Canada.
Voilà. Merci beaucoup, Louise. Et pour ceux qui attendent à ce que
on
apprenne qu'il y a de l'immortalité chez l'humain, non, c'est pas pour le moment. Même si la science a évolué.
Mais peut-être les champignons.
Les champignons, mais même si la science a évolué, on ne peut pas rendre les humains immortels. Non, ça n'existe pas pour l'instant.
Peut-être un jour,
oui.
Ne sait pas.
Oui, on ne sait jamais, mais pour l'instant, il n'y a pas assez de place pour tout le monde.
Ah ben non.
Sinon, nous autres, on ne serait même pas là s'il y avait des...
Oui, parce que... Il y a assez de place pour les champignons.
Voilà, il y a assez de place pour... Mais assez de forêt aussi, assez d'arbres.
Surtout au Québec.
Voilà, merci
Alors,
beaucoup.
Alors, amusez-vous bien.
Oui.
Et puis, je vous dis à la semaine prochaine.
Merci beaucoup, Louise.
Au revoir.
Tuma mwenyewe, yeah. Vipigo na vichinjo, sivipati tena poko. You know I want you in my life, sito boy bila wewe. See you wanted my number, na mimi kakupea. Sawa sawa, naomba nijue, kama ninakosea. Sawa sawa, mapenzi wanasemaga kikohozi. Nikiko wana hadi naishiwa pozi. Siwezi kupenda tena mapitozi. I want a gentleman. I swear I'm happy, oh I'm happy. Yes, I'll marry you. Tena mwenzenu, I'm happy. Yes, I'll marry you. I just wanna love you, love you.
God, I want to see you later. Ikupeleke out later. Cause there's something about you. I can feel it in my bones. Fikra zangu zipo mbali na wewe. Tatizo mama, kiburi chako kinakuzuia. Na mimi hapa kiburi changu kinanizuia. Basi punguza mapozi yako. Ona tunapoteza muda wana we. Oh, I just wanna love you, love you. Can I be your man? I want you to want me, babe. I just wanna be the one to save you. Like I'm Superman. You're a superwoman.
Fine avec la complicité Otile Brown, Superwoman. Voilà. Alors, merci à ces deux artistes complices. Quelle sensibilité. Voilà, je vais parler de la disparition de l'écrivain ou bien de l'auteur Simon Roy, qui n'est plus depuis samedi, avant-hier. Aujourd'hui, c'est lundi. Oui, il nous a quittés le samedi 15 octobre en après-midi. Il a demandé l'aide médicale à mourir après avoir courageusement lutté contre ces dernières années et contre un terrible cancer au cerveau. Et Simon Roy, qui a fait une entrée fracassante derrière en littérature avec Ma vie rouge, Kubrick, paru en 2014 aux éditions du Boréal et dans la collection Liberté Grande que dirige Robert Levesque, d'ailleurs, est puis lauréat des prix Libré l'année suivante. Ce livre contenait déjà tous les thèmes qui allaient hanter l'œuvre du romancier, s'appuyant sur une analyse obsessionnelle du film The Shining et puis de Stanley Kubrick. Simon proposait aussi une poignante interrogation sur la possibilité de continuer à vivre quand notre héritage familial est marqué par la tragédie. C'est-à-dire de manière plus caractéristique encore, il venait brouiller la frontière entre réalité et fiction pour créer une atmosphère aussi envoûtante que troublante. Voilà, il nous a quittés malheureusement ce samedi avant-hier. Que la terre lui soit légère et que son âme repose en paix. Et il allait poursuivre d'ailleurs cette réflexion sur la vérité et le mensonge dans les œuvres qui ont suivi Owen Hopkins, Hopkins en Esquire en 2016 et puis fait par un autre 2021, ahurissante biographie fictive d'un véritable faussaire, et Ma fin du monde 2022, où il évoquait de façon vertigineuse sa propre mort qu'il voyait approcher en tentant de lui opposer tous les sortilèges de la fiction. Simon a également aussi connu une longue carrière de professeur de littérature au Cégep Lirégroux, partageant sa passion pour les livres avec de nombreux étudiants qui mènent aujourd'hui des carrières d'écrivains ou qui œuvrent dans le domaine de l'édition. Il laisse dans le deuil ses enfants, et sa famille. Et il ne fait aucun doute que l'œuvre qu'il nous laisse, malgré marqué par une profonde originalité, nous a obligé de reconnaître que les récits mêlant inextricablement réalité et mensonge constituent la substance même de nos vies. Un questionnement de radicalement les prérogatives de la littérature, il nous aura rappelé son inépuisable pouvoir. Bon vent, Simon Roy, que la terre te soit légère, que l'âme repose en paix. Voilà. J'ai encore quelques minutes, je vais parler un peu du grand succès, deuxième titre de Roger, Félix Auger-Aliassime, qui vient d'avoir son deuxième titre, le Master de Florence en Italie. Ça s'est passé dimanche. Voilà, la première finale de l'ATP 250 de Florence s'est tenue ce dimanche, comme à Dijon, avec le sacre d'André Rublev, et puis la tête de série numéro 1 a tenu son rang jusqu'au bout. FAA, Félix Auger-Aliassime. On l'appelle comme ça maintenant, FAA. Grand favori de la finale, s'est offert Gigi Wolf, un Américain, un deuxième en titre, en carrière, en le battant l'Américain. Gigi Wolf, 6-4, 6-4, en 2-7, sec. Donc, ce jeune Montréalais, qui avait perdu ses 8 premières finales avant de remporter son premier titre cette année à Rotterdam. Je rappelle bien, on en a parlé ici, que son mental, qu'un certain cap mental a été passé. Il avait été bousculé par Oscar Ott en début de ce tournoi à Florence d'ailleurs, pour son entrée en lice. Il est monté en puissance en dominant son autorité, en montrant son autorité, Brandon Nakashima, et puis titré pour la première fois de sa carrière au début de l'année à Rotterdam, il n'a pas tremblé pour planer un deuxième titre. Pour gagner un deuxième titre. Moi, je suis très, très, très content pour lui. Tout le monde sportif est très content pour lui. On espère qu'il va nous faire des coups comme ça aussi dans les mois à venir, dans les prochains tournois de tennis. Voilà. Et j'espère que son Chapovalov aussi va le suivre, hein. Voilà. C'est. Il n'avait déjà guère souffert samedi soir parce qu'il avait rencontré samedi aussi Lorenzo Musetti, l'Italien, pour décrocher une 11e finale. Mais, ça n'a pas marché. Musetti s'est retrouvé. Il a encore été impérial ce dimanche avec les 11 AC, le 7 le dimanche avec une seule mise en jeu lâchée en tout début de rencontre. FAA était bel et bien au-dessus de l'Américain Gigi Wolf, 23 ans, qui disputait sa toute première finale sur le grand circuit. Donc, Félix Auger-Aliassime est en train de sécuriser sa qualification pour les Masters. Il monte à la place, depuis aujourd'hui, il est à la place, 10e place maintenant. Il était redescendu, là, il était 9e après les différentes défaites, il est tombé quelque part là-bas. Ouais. Là, il remonte à la 10e place. On lui dit bravo, il faut en parler, c'est un bon cheminement. Donc, je me suis dit, il faut que j'en parle, quoi, parce que là, vraiment, il y a quelque chose qui, dans cette histoire de tennis, s'il continue comme ça, je pense bien que dans les tournois à venir, dans les années à venir, il va nous montrer de quoi il est capable. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui. Il a réussi hein, dans ce match. Il a 67% de ses premiers services au deuxième set et a gagné 16 des 18 points après avoir logé sa première balle en jeu. J'ai vu le résumé du match. C'était époustouflant. C'était vraiment époustouflant. Wolf n'a gagné que 7 points au service de FAA en deuxième manche. Hein, je me suis dit, oh, ça va mal. Bon, faut pas lui en vouloir, ce jeune Américain. Cet Américain, il est plus âgé que Félix Auger. Il a 23 ans, Félix a 22 ans maintenant. Donc, je pense. Mais c'est sa première finale, il n'avait jamais joué de finale. Ah ouais, bon ouais, il va s'habituer lui aussi, les autres aussi ont perdu leur première finale comme ça, bon mais en fin de compte ils se sont rattrapés quand l'expérience est là, on dit voilà, la petite devient une seconde nature, on sait comment s'y prendre quand on arrive en finale, en demi-finale, en finale, on sait comment s'y prendre, peu importe qui est en face, même si c'est le premier mondial ou bien le dernier, tous les matchs ont la même importance, il faut pas sous-estimer en tout cas. Alors c'est ce qui s'est passé, bon il a été battu mais voilà, il a été deuxième du tournoi quand même, il faut lui dire. Et je me dis bon ben, et à un moment donné il va falloir que les trophées voilà arrivent à Rirailleux pour qu'un jour ils se disent moi aussi je me suis amassé une vingtaine de trophées durant tout mon parcours de tennisman, de joueur de tennis. Bon voilà, et c'est qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'on dit, oui. 11e en arrière, le 3e en, une 3e en 2022, une 2e, pourquoi pas, avant que l'année ne se termine, il se pourrait qu'il nous envoie encore notre trophée. Ouais, on sait jamais. On sait jamais. Lui, il nous surprend là où on l'attend pas du tout. Mais quand on se dit, on le voit en pleine forme, et puis on se dit, bon, bah, il va gagner ce match, il va aller en finale, il va aller décrocher le trophée, et puis tout de suite, bon, ben, ça va pas, quoi, ça va plus. Et puis je me suis dit, au début, quand je le voyais gagner des matchs, c'est quand qu'il a acculé au mur. Voilà, il a le dos au mur qu'il arrive à se défendre et puis il arrive à remporter les rencontres. Restez à l'écoute. Après la petite pause publicitaire, je reviens avec Rebecca Jean qui va nous parler des deux derniers spectacles qui lui restent pour l'an 2022. Ouais, depuis la sortie de son album Antidote, c'est ça. Ouais. Et puis, tout de suite, ouais, on va jouer quelques-unes de ses pièces de cet album-là. Allez, à tout de suite après la petite pause publicitaire.
Vous écoutez Escale 16-17 avec Fulgence Blas.
Tu pourras m'habiter.
Oh, Rebecca Jean, rallume le feu.
Oui.
Rebecca, comment on se sent quand on s'écoute soi-même comme ça? Parce que je savais que tu écoutais avec nous. Hein.
Oui, j'écoutais avec vous et puis je me suis dit, ah, ça fait du bien. Rallume le feu avec une journée comme ça, pluvieuse.
Oui.
Et l'hiver qui s'en vient, ça réchauffe un petit peu.
Merci à toi, bonjour. Et je suis impoli là, il fallait que je dise bonjour d'abord.
Mais chaque fois qu'on se parle, c'est comme une même longue conversation qui continue. Alors,
c'est ça.
Va.
Merci d'avoir une dernière minute de venir parler de tes deux derniers événements qui restent pour l'an 2022. Quand j'ai vu toute ta programmation depuis le lancement de l'album Antidote, j'ai dit, mais oh, est-ce qu'elle se repose celle-là?
Ah, pas vraiment, non. Je ne me suis pas vraiment reposée cette année. Ça a été une année vraiment intense. Depuis le début de l'année, on a passé le cap 2022 et on dirait que tout a commencé à rouler à 1000 à l'heure.
Mais je suis très content pour toi. Hein. Je me suis posé la question, est-ce qu'elle se repose celle-là? Je me suis dit, je suis très content pour elle, ça marche.
C'est gentil et c'est une très bonne fatigue. Mmh. C'est vraiment, j'aurais pas pu demander mieux d'avoir l'album qui a une belle visibilité comme ça et puis les gens qui viennent... et qui reviennent au spectacle. Et chaque fois, je me dis, oh là là, mais parfois, les dates sont tellement collées. Puis, il y a de nouvelles personnes chaque fois. Et souvent, les salles étaient pleines. Alors, vraiment, je suis pleine de gratitude.
Mmh. Comment il se porte cet album, Antidote?
Eh bien, le bébé fait ses premiers pas.
Oui.
Croisière.
Oui.
Je le regarde aller un petit peu. Au début, il faut aller mettre... C'est un peu comme une dynamo. Il faut mettre beaucoup d'énergie. Puis, à un moment, on dirait que ça part un peu plus... tout seul, ça fait son chemin. Et puis, donc, parfois, les gens m'appellent pour me dire « Ah, ben, j'ai entendu telle chanson à la radio aujourd'hui.
Oui. »
Ou bien « Il y a telle personne qui m'a parlé de ton concert, qui m'a invité. » Mais je dis « Mais c'est mon ami. » C'est bien, ça commence à circuler. Ça me fait vraiment plaisir.
Génial, moi j'adore cet album-là, sincèrement. Voilà.
Merci.
Ah non, je te mets pas de la pommade dans le... Voilà, pour te faire plaisir, j'adore, c'est du beau travail professionnel. Je profite de l'occasion pour dire merci à tous ces artistes et tous ceux qui t'ont encadré, tous ces artistes qui sont dans... Toutes ces personnes qui étaient impliquées dans ce projet-là.
Ah
et,
oui.
Et d'ailleurs, la soirée de lancement, je me rappelle encore, j'ai encore les images là. En tête, on n'a même pas eu la chance de se voir après l'événement parce que tout le monde voulait te parler. J'ai dit, bon, mais moi, je vais pas...
C'est vrai. Bon, alors tu pourras venir à mes deux derniers là.
Oui, peut-être celui de samedi, peut-être, oui. Là, de toute façon, on va en parler. Voilà, c'est la raison de mon invitation d'ailleurs. C'est les deux derniers de l'année, de l'an 2022. Les deux derniers spectacles, voilà. D'abord, exactement. On commence pour le jeudi 20. Explique-nous, ça se passe où et comment? Est-ce que c'est les mêmes complices que j'ai vus au lancement de l'album qui seront avec toi, si je ne me trompe pas?
Les mêmes complices, donc oui. Moïse Yaomaté aux percussions,
oui.
Hassan Sek à la guitare,
oui.
Et aussi
au clavier.
Yoel Diaz,
oui.
Au clavier,
ouais.
Ce qui est vraiment intéressant parce que le fait d'avoir un deuxième clavier,
oui.
Ça me permet de temps en temps de me lever, de me rapprocher un peu du public.
C'est ça.
Alors j'aime beaucoup cette expérience-là.
Mm-hmm.
Alors pour répondre à ta question, jeudi le 20 octobre,
oui.
Ce sera à 19h30 à la Maison de la Culture Marie Huguet.
Oui.
Donc ça c'est à Verdun.
Mm-hmm.
Le spectacle est gratuit, mais comme ce n'est pas une très grande salle, il faudrait... que les gens réservent sur Internet.
Oui,
donc,
oui.
Aller sur le site,
les laissez-passer.
Mmh. Il y a des laissez-passer, exactement.
Mmh.
Et puis, sinon, ils peuvent aller directement à la bibliothèque qui est rattachée à la Maison de la Culture pour aller les chercher.
Oui.
Sinon, samedi, le 20 octobre.
Le 22.
Le 22, pardon.
Oui, oui.
C'est 20h, c'est ça. Mmh.
Jeudi 20, samedi 22.
Oui, c'est ça, ça devient mélangeant tout ça.
Oui.
Alors, samedi, le 22 octobre, ce sera à 20h, au centre Saint-Jacques, qui est une église au centre-ville.
Oui.
Alors, Saint-Jacques, c'est vraiment beau, j'ai été voir un peu les images, et ils font la ville l'utilise pour faire plusieurs spectacles, et c'est vraiment une belle ambiance. Donc ça, ce sera vraiment notre dernier show, ce sera à l'église.
Mm-hmm.
Les gens m'ont demandé...
comme ça, des commentaires Facebook comme ça, elle va nous recevoir à l'église comme ça. Je dis oui, je prends même les confessions s'il le faut.
Quel sens d'humour. Voilà, non, sincèrement, mais quand on sort un album et puis on est tout le temps booké comme ça, là, comment l'artiste, vous, toi Rebecca en tant qu'artiste, comment tu te dis, waouh, ça, cette année, c'est mon année.
Ben, je m'en rends compte de plus en plus. Plus ça va commencer à ralentir tout doucement. Donc, c'est maintenant que je me rends compte à quel point il s'est passé mille et une choses en 2022.
Oui.
Je suis vraiment aux anges. Je me demande un peu comment je vais vivre l'après 2022, c'est-à-dire même novembre et décembre, parce que tu sais, quand tu es dans un rythme tellement effréné que tout d'un coup, ça s'arrête. Donc, je me dis, bon, je vais quand même travailler sur autre chose.
Mais c'est ce que je te vois là, tu m'as sorti les mots de la bouche, parce que bon, c'est pas parce que tu ne seras pas en spectacle que tu arrêtes de créer.
Non, c'est ça, c'est
voilà.
Ça. Et d'ailleurs, j'ai hâte d'entrer dans une période de création, mais pour l'instant, je vois pas, je suis tellement à fond dans Antidote que je sais pas vraiment qu'est-ce que je vais créer, qu'est-ce qui va se passer. Donc, je laisse l'espace aussi, comme c'est un gros projet, ça m'a pris quand même plus de 2 ans pour le mettre sur pied, y travailler avec Vincent Choureau, mon co-réalisateur et tout ça. Donc, je veux laisser le temps aussi faire les choses et laisser l'espace à Antidote pour continuer à rayonner. Au lieu de me dépêcher d'entrer dans un autre
projet. Non. Voilà, c'est ça. Effectivement, on sent déjà le professionnel, le beau travail, le temps que tu as mis pour monter ce projet, pour finir cet album avec tous les complices qui t'ont accompagné là-dedans, tous ceux qui ont cru en toi, qui t'ont accompagné là-dedans, parce que là, il faut le dire. Et je me dis, voilà, il aura quelques mois pour souffler un peu, et puis c'est reparti tout de suite. Après, en début 2023 déjà, on tape le bois pour que la santé soit. Avec de ton côté,
absolument.
Voilà, parce que avec tout ce que tu as vécu en 2022, là, vraiment, l'ascension, et que l'ascension continue. Hein.
Ah oui, ça, mais merci déjà, merci beaucoup, Fulgence. Et on a déjà des dates pour 2023,
ouais.
Donc ça continue, et puis c'est très encourageant. Donc j'ai bien hâte de voir ce que l'avenir. Nos réserves. Et heureusement, le travail ne va pas s'arrêter d'une manière abrupte non plus, parce que, entre-temps, je ne sais pas si tu étais au courant, mais je suis porte-parole du mois du créole cette année.
Non, je ne suis pas. Là, tu me l'apprends. Tu nous apprends. Voilà, les auditeurs et nous.
Oui.
Ouais, c'est bien de le savoir, oui.
Oui, alors, mois d'octobre, très grand mois pour moi. Et donc, je suis porte-parole et on a plusieurs activités. On est rendu à la moitié du mois. D'ailleurs, le spectacle que j'ai fait à la Maison de la Culture du Plateau Mont-Royal, c'était dans le cadre du
Dans le cadre, oui. Voilà, en fait, d'une pierre deux coups, tu nous parles un peu, comme tu es porte-parole de cet événement, tu nous parles un peu, comment ça se déroule actuellement?
Eh bien, ça se passe super bien. C'est vraiment impressionnant de voir la richesse des cultures créoles.
Mm-hmm.
Moi, j'ai découvert vraiment des gens, des artistes de l'île Maurice, dans leur manière de chanter, de s'exprimer. Bon, parfois, le créole est un petit peu plus difficile à comprendre, mais si on s'y met vraiment, on peut se comprendre entre nous. Mmh. Et surtout, on se reconnaît dans l'art, à travers l'art, à travers ce qu'ils nous ont présenté. On remonte dans les racines et ce sont les mêmes, quelque part. Alors, on se reconnaît, ça fait vraiment, vraiment du bien. Je trouve que c'est un festival qui est très important parce qu'il nous permet de valoriser nos racines, nous permet de valoriser non seulement la langue créole, mais aussi notre histoire. Tu sais, je disais ce matin, justement, mes parents, par exemple, à l'école en Haïti, ils n'avaient pas le droit de parler créole. Il fallait parler français uniquement.
Wow.
Et si jamais on parlait créole, ben on vous mettait un genre de bonnet d'âne pour que tout le monde puisse se moquer. Et alors, c'était vraiment très dur. Il n'y a pas longtemps que la génération de mes parents apprenne à vraiment bien écrire le créole. Donc, c'est une réappropriation qu'on est en train de faire.
Wow.
C'est vraiment magnifique. Et je pense que le mois du créole, pour ça, nous permet, est vraiment... crée vraiment l'ouverture pour cela. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous inviter. Il va y avoir la grande dernière avec Sénaya le 29 octobre.
Oui.
Ça va être au Cégep Hansik. Et puis, le 23 aussi, il va y avoir une conférence par rapport à Jack Stephen Alexis.
Oui.
Et vraiment un homme à découvrir. C'est, ça va être merveilleux et moi, j'y serai. Je serai un peu fatiguée peut-être après mon show de la veille, mais je ne veux pas manquer ça.
Oh,
alors, alors, j'invite tout le monde à aller sur le site web du mois du créole.ca pour pouvoir être au courant de la programmation.
Comment tu as réagi quand le comité d'organisation t'a contacté pour que tu sois porte-parole?
Bon, la vérité, au début, j'ai dit impossible. J'ai dit, j'ai tellement de choses cette année, et en plus, mon mois d'octobre, juste pour te dire, le mois d'octobre, c'était au moins 13 événements.
Oui.
13.
Oui.
Alors, je me suis dit, ah, non, je pourrais pas, je suis désolée, Pierre Roland. Et tu sais, il a été très intelligent, il m'a dit, t'as pas besoin de me répondre tout de suite, réfléchis un peu. Et il a eu raison de me dire ça, parce que quelques jours après, je l'ai rappelé, j'ai dit, tu sais quoi, je ne peux pas dire non, parce que les valeurs du KEPCA se rapprochent trop de mes propres valeurs, et ça fait déjà quelques années que je fais la promotion de la langue créole.
Oui.
Et du coup, il fallait que je dise oui, et c'est tellement un bel honneur, je me suis dit, on va dormir au mois de novembre. Je vais accepter ce nouveau défi.
Oui, oui, tu pourras te reposer un peu avant de reprendre tes tournées, tes spectacles à partir de l'année 2023. Sincèrement, c'est, non, je suis très content pour toi. Comment ça, les choses bougent et comment ça va de l'avant. Et puis, on va parler de, comment dirais-je, comment Rebecca se voit après ce grand, moi j'appelle ça un succès. Hein. Moi, je personnellement, je sais pas comment toi-même tu vois ça, mais tout ce que tu vis depuis la sortie d'Antidote, même avant la sortie d'Antidote, tu avais déjà fait ton petit bout de chemin. Antidote est venu encore te booster là-haut. Et comment tu te dis, est-ce que je me suis pas trompé alors d'avoir choisi de faire de la musique?
Ah, écoute, il y a des moments où c'était plus difficile. Parce qu'on s'entend que vivre de son art, c'est pas toujours évident.
C'est pas évident,
ça demande beaucoup de sacrifices. Et puis, parfois, t'as plein de contrats, puis tout d'un coup, t'as un creux. Donc, ça n'a pas été évident, mais j'ai vraiment pas... Il n'y a pas une seconde où j'ai douté que je voulais utiliser cet outil-là. Mm-hmm. Parce que je sais faire plusieurs choses, mais vraiment, la musique, pour moi, c'est l'outil que j'utilise pour moi-même, lorsque ça ne va pas, ou bien quand je passe par des moments plus difficiles, c'est vraiment la musique qui vient m'apporter une certaine stabilité, une certaine guérison. Mmh. Donc, vraiment, d'avoir eu cet accueil-là, ça m'a vraiment boosté, donné m'a rappelé pourquoi je le faisais. Et puis, c'est une belle tape dans le dos pour continuer. Il faut dire aussi, c'est le genre qu'on est dans un grand pays, parce qu'on a aussi des subventions. Il y a des endroits où les gens ont tellement de potentiel, de talent, mais ils ne sont pas supportés.
Ils passent à côté
de leurs rêves et de ce qu'ils pourraient apporter à la société.
Oui.
Dans mon cas, quand j'ai eu ma première subvention du Conseil des arts du Canada, ça a complètement changé ma vie parce que j'avais plus besoin de, premièrement, convaincre ma mère que je devais continuer avec la musique.
Oui, ou bien aller chercher n'importe quel genre de boulot pour pouvoir faire face à ton projet.
Absolument, parce que ça te permet, dans ce cas, de te concentrer sur ce que tu fais le mieux. Mmh. Alors vraiment, j'ai été vraiment contente, bénie d'être aussi bien accompagnée.
Oui. D'ailleurs, j'en parle souvent ici à Escal 16-17, parce qu'il y a des artistes qui ne savent même pas où s'adresser, comment s'adresser. Quand je vois les programmes, les subventions du Conseil des arts du Québec, ou bien des arts et lettres du Québec, ou bien du Conseil des arts de Montréal, ou bien du Canada, tout de suite, je sors sur l'opportunité, j'ai dit, écoutez, bah bien, les organismes chargés d'artistes, ou bien les artistes, écoutez, voilà ce qu'il faut faire, voilà tel programme, date limite d'inscription, à quoi ça sert, combien vous allez recevoir, ne pensez pas que vous allez toujours recevoir la totalité de la somme dont vous avez besoin, c'est toujours 75-80%, mais c'est déjà pas mal. Il y a des, comme tu viens de le dire, il y a des régions du monde dont les artistes ne sont même pas subventionnés. Et on est bien gâtés au Québec. La culture est tellement subventionnée que ceux qui savent où aller chercher, à quelle porte frapper, les projets peuvent se réaliser.
Et c'est pas si difficile d'accès non plus. Il suffit de chercher un peu, d'aller sur les sites, de voir, ça demande un petit travail, de recherche, de lecture. Mais le jeu en vaut tellement la chandelle. Vraiment, moi je dis les artistes, là, il faut rester à l'affût de ce qui se passe et pour en bénéficier et puis pour pousser votre art sans être stressé tout le temps par OK, ce mois-ci, comment je paye le loyer, quoi.
C'est ça. Et puis il y a des professionnels, il y a des gens qui sont spécialisés dans les demandes de subventions. Il y a des gens qui font ça, qui ne font que ça pour les artistes.
Oui.
Parce
c'est
que,
vrai.
Voilà, les artistes, même, je sais pas, ils n'ont pas cette connaissance-là. Monter un dossier pour aller chercher des subventions, c'est pas à la portée de tout le monde. Alors il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. N'a qu'à taper sur Google. Vous allez les trouver, et puis bon, ben, Aline Sergée. Un dernier mot là pour les deux spectacles qui viennent, à ceux qui nous écoutent. On va écouter une dernière. Après ça, on va passer une autre pièce. Avant de te laisser partir, un dernier mot aux auditeurs et puis pour tous ceux qui.
Simplement dire à tout le monde, vous êtes les bienvenus. On vous attend le 20 jeudi,
oui.
Le 20 octobre, à la Maison de la Culture Marie Huguet,
oui.
19h30.
Oui.
Et puis les portes ouvrent à 19h. Puis samedi, le 22 octobre, à l'église Saint-Jacques, au centre-ville,
oui.
C'est à 20h et les portes ouvrent à 19h30. On sera là en formule quatuor pour vous présenter les chansons de mon album Antidote.
Antidote. Et après, tu vas jeter un coup d'œil sur ton site, hein, parce que le 22, ça a mis deux fois au lieu de 20 et 22. C'est ce que j'ai remarqué. C'est ce que j'ai remarqué quand je suis allé sur ton site.
Mais peut-être que tu as vu 22 à la fin, c'est 2022, en fait.
Oui. Ah, bon, d'accord. 22, ouais. Bon, ben, 20.
Je vais vérifier. Merci.
20 et 22, voilà. Donc, merci beaucoup à toi. Bon spectacle. Mais le samedi, là, je vais être présent. Parce que
plaisir.
J'ai dit, j'ai déjà quelque chose, je vais voir un autre spectacle. Donc, samedi, ça, c'est clair, je vais être à l'église. Mais c'est pas pour aller prier, mais pour aller t'écouter.
Mais tu sais, avec mes idées, peut-être que ça va tourner autrement, là.
C'est ça.
Finalement, c'est l'église qui m'a engagée, c'est le prêtre.
C'est ça.
Merci de m'avoir reçu, Philjean. C'est vraiment, vraiment plaisir. Merci beaucoup.
C'est moi qui te remercie. Bonne soirée. À samedi.
À samedi.
Mon spectacle jeudi. Ouais.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Pour tes poumons.
Rebecca Jean, pardon Gaïa, c'est Lettre à la Terre. Merci beaucoup et bon spectacle jeudi 20 octobre de 19h30 à la Maison Culture de Marie-Huguet, c'est 65 ans de boulevard Monk à Montréal. Ouais, accompagné de ses complices de toujours. Et puis le samedi 22, c'est à l'église Saint-Jacques, je reviendrai sur ça d'ailleurs. Et puis pour terminer, je vais parler des nouveautés littéraires. Oui, Montréal Nord, Mariana Mazza, éditeur Québec-Amérique, c'est paru depuis le 11 octobre. Quand certains après-midi d'été, ma mère faisait des heures supplémentaires au travail, mon frère et moi, on attachait des petits soldats verts à des sacs de plastique en guise de parachute avec de la ficelle. On trempait les bonshommes dans de l'alcool à fiction et on leur mettait le feu. On les lançait alors du troisième étage de façon qu'ils se dirigent vers la rue. Celui qui frappait une voiture gagnait. Le perdant de la course devait aller chercher les sacs de plastique échoués dans la rue. On voulait dissimuler toute l'épreuve à notre mère. C'est l'histoire d'une petite fille trop sensible nommée Mariana, mais aussi un touchant hommage à l'univers qu'il a défini. Le quartier où elle a vécu, les familles immigrantes qu'elle a côtoyées, les enseignants qui l'ont inspirée, et aussi les lieux enchanteurs pour une enfant qu'elle a fréquenté, tel le club argentin, le cinéma L'Angelier et le marché aux puces 5 étoiles. Voilà, c'est, elle brosse un portrait de son enfance dans le Montréal Nord des années 90, à la fois sombre et lumineux, chaotique et chaleureux. Voilà, Mariana Mazza. Qui c'est allez-y hein, c'est édition Amérique Québec à Québec Amérique, pardon, c'est pas Québec France, Québec Amérique. Mariana Mazza, et puis quoi encore, il y a quelque chose d'autre, Perdre la tête, Heather O'Neill, traduit par Dominique Fortier, voilà, aux éditions Alto, c'est paru aussi le 11 octobre. Mourons toutes les deux, parfait, et on se tue avec nos doigts, demande à Marie, bon, je vais emprunter les pistolets de mon père, ils sont si beaux. Enfant gâté et charismatique d'un baron du sucre, Marie-Antoine est la reine des gamins du mille doré. Voilà, voilà. Jusqu'à ce jour de 1873, elle a fait la rencontre de la sombre, brillante Sadie Arnett. Elle se lie aussitôt d'une amitié tumultueuse qui les poussa vers des jeux de plus en plus dangereux, au point où on jugera nécessaire de les séparer. Chacune de leur côté, les deux filles traversent leur adolescence, dansant entre innocence et dépravation, pétillante et lumineuse. Marie-Antoine recherche le plaisir et le luxe, tandis que Sadie plonge dans un Montréal misérable et malfamé, où la classe ouvrière fomente une révolution. Et toutes deux joueront un rôle inattendu dans les événements qui bouleverseront leur ville. Donc, cette jeune auteure, Heather O'Neill, qui livre ici un récit captivant sur une amitié si intense qu'elle change le cours de l'histoire. Perdre la tête est un roman puissant qui explore les questions de genre et de pouvoir, de sexe et de désir, et la force terrible du cœur humain, aux éditions, voilà, Alto, comme je le disais. Merci à toi, Maurice Bolduc. Et puis bon ben bonne semaine, on se retrouve le vendredi. Et je dis merci à Louise Thibault. Et je dis aussi merci à Rebecca Jean qui sera en spectacle le jeudi et le samedi. Voilà. Et puis bon ben je dis merci à nos fidèles auditeurs. Voilà, profitez bien de la vie. Arrivez à quand même à vous débarrasser de la petite usine d'insatisfaction que vous avez en vous, que chacun de nous en soi. Faut pas toujours faire le procès de la vie. Prenez soin de vos minutes surtout. Et sur ce, je vous dis encore une fois merci de votre fidélité et ciao, on se retrouve demain sur les ondes de Canal M. Voilà, à la même heure, 16-17.